Alors j'ai un peu cherché quand même. Et puis la montagne que personne ne voit, c'est ses différentes facettes. Bon, déjà le handicap. Ensuite, j'ai de l'affinité avec une montagne dans l'Oberland qui est à côté de l'Aiguère et qui est nettement moins connue. La montagne que personne ne voit, ça peut être aussi le côté sombre du métier de guide. Et surtout, pour moi, c'est aussi l'anti-exploit.
Vous avez donné quelques noms à des chemins en montagne. Est-ce que c'est différent de donner un titre à un livre ?
Non, ça ressemble pas mal, en fait. Oui, il y a beaucoup de similitudes.
Ce livre, vous l'avez terminé en février 2016, moins d'un an après la mort de votre fils, qui était atteint du syndrome d'Angelman, hein, qui est un trouble sévère du développement neurologique. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre ?
Je crois que pour moi, c'était thérapeutique, un petit peu salvateur, pouvoir sortir ces choses qui restaient trop profondément ancrées, quoi. Alors évidemment que le livre lui est dédié, ainsi qu'au membre de la famille et ceux qui l'ont connu et ceux qui nous ont aidés surtout, quoi.
Vous, dans le livre, en fait, vous entremêlez vos émotions que vous vivez en montagne avec les émotions que vous avez vécues durant toute la vie d'Arthur et puis après son décès. Vous auriez pu faire deux livres, un sur chaque sujet. Pourquoi avoir décidé vraiment d'imbriquer ces deux thèmes ensemble ?
Oui, c'est pour Rati, c'est assez large en fait. Je voulais pas faire un livre qui parle que de montagne parce que il y en a déjà bien assez. Je voulais pas faire non plus un livre sur le handicap parce que voilà, c'est un sujet délicat. Moi, je raconte ma propre expérience et j'ai trouvé que de mélanger un petit peu les deux, essayer toujours de trouver un petit lien entre chaque chapitre, ça pouvait être intéressant. Maintenant, je ne sais pas si j'ai réussi l'exercice ou pas, quoi. C'est ce qui est fait, quoi.
Alors moi, je l'ai lu et oui, je peux vous dire que vous avez bien réussi cet exercice.
Oh, merci. So you think you could tell
heaven from hell. Alors ces paroles qu'on entend, hein, ce sont celles du groupe Pink Floyd qui figurent au début de votre livre. Alors pourquoi ce choix de ce titre de Pink Floyd ?
Pink Floyd, c'est une passion chez moi qui vient depuis tout petit. C'est un groupe qui me correspond, que j'écoute beaucoup.
C'est pas le pire, hein ?
C'est pas le pire, non ? Et la chanson Wish You Were Here, ça veut quand même dire tu me manques. Et puis moi, ce que j'ai compris, parce que je suis pas une dalle en anglais non plus, c'est un petit peu le... C'est un petit peu tout un mélange de choses contradictoires dans cette chanson, quoi. Comme il le dit bien, le paradis, comment faire, le ciel bleu comme souffrance. Et puis, je crois que les heures, les jours passés avec mon fils, c'était ça, quoi.
Entre les deux. Il y a d'autres artistes que vous évoquez, hein, comme Noir Désir, Hubert Félix Tiefen ou encore Metallica. On va dans un instant, d'ailleurs, écouter Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Et qu'est-ce que représente pour vous cette chanson ?
Ça c'était ma jeunesse en fait, quand moi je commençais à sortir avec les copains, quand cette chanson-là est sortie surtout. Moi, je suis pas musicien, mais j'en écoute beaucoup, j'ai trouvé que c'était une révolution de la musique. Quand Nirvana a débarqué, ça, on s'est dit ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu quelque chose de nouveau comme ça, quoi.
Ah, quelque chose qui déménage, hein.
Ouais.
Dans le livre, vous parlez aussi, et quand vous parlez de cette chanson, vous imaginez votre fils avec Kurt Cobain, vous dites qu'ils avaient les deux une tignasse blonde.
Exactement, il avait une ressemblance un petit peu. Puis quand il s'excitait, le petit, et qu'il démontait sa chope, ça me faisait vraiment penser à Nirvana qui termine un concert, quoi.
La manière dont vous écrivez est assez directe, hein. Vous ne laissez pas d'embellir les choses, de faire de la poudre aux yeux, comme on dit, hein. Vous les dites telles qu'elles sont ou qu'elles ont été. Alors pourquoi ce choix d'écriture, hein ?
Alors ça me vient comme ça, je réfléchis pas plus loin en fait, quoi. C'est spontané, instinctif.
Donc c'est votre nature en fait, hein.
Oui, oui.
Vous êtes comme ça dans la vie comme dans le livre, en fait.
En général, hein. Oui.
Vous relatez ce jour du 23 avril 2015 où vous recevez un coup de téléphone du directeur du CPCJB, le centre de pédagogie curative du Jura bernois, où Arthur passait plusieurs jours et nuits par semaine. Vous parlez aussi du jour où vous avez reçu le rapport d'autopsie du canton. Pourquoi vous détaillez autant ?
Parce qu'il y avait un petit flou toujours avec la raison du décès de mon fils. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que quand on le mettait dans son lit, il arrivait toujours à sortir comme il voulait. Donc le fait qu'on me dise qu'il se soit étranglé me paraissait très flou, parce que je connaissais très bien mon fils. Et il a fallu toutes sortes d'enquêtes, d'investigations pour prouver que ce n'était pas ça. Enfin, de ma propre conviction, quoi.
Vous êtes un enfant de Tavannes, vous y vivez toujours, un village où on peut dire que tout le monde connaît. Est-ce que ce livre, c'est aussi une manière de mettre les points sur les i par rapport peut-être à des remarques qui ont pu être faites ?
Oui, peut-être, mais bon, chacun est comme il est. Je n'ai pas de règlement de compte à faire avec ce livre, parce que si je voulais vraiment, je pense que je pourrais aussi écrire plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est surtout, en particulier l'histoire de mon fils, c'est de la laisser derrière, quoi. C'est que maintenant, c'est figé dans ce bouquin, puis faut aller de l'avant, quoi.
Alors, dans le cycle de la vie, normalement, ce sont les enfants qui sont censés voir partir les parents, et pas l'inverse. Comment on fait pour se relever après un tel drame ? Est-ce qu'on se relève déjà ?
Oui, un jour ou l'autre, on doit se relever quand même, mais on n'oublie jamais. Hein, c'est un long processus, je pense, quoi. Puis moi, ben justement, écrire ce bouquin, ça a été salvateur, quoi. Puis partir en montagne, mettre mon sac sur le dos, et puis passer un peu à autre chose.
Ouais, peut-être simplement, ouais, c'est s'évader. La nature est aussi un bon moyen de se soigner.
De se soigner, oui, tout à fait. Oui, si on arrive à avoir son esprit libre là-haut, c'est un excellent moyen. Parce qu'on pense que à ce qu'on doit faire, et on pense à sa survie, surtout là-haut aussi. Sur de quelle situation on se met.
Si une famille nous écoute ce matin et que l'un de ses enfants a le syndrome d'Angelman ou un enfant différent, comme vous l'écrivez, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ?
Mais c'est un sujet très très délicat parce que chaque appréhende le handicap à sa manière, quoi. Nous, on a fait comme on a fait, comme on a pu, avec nos mots, notre façon de faire, mais ça parle peut-être pas à tout le monde non plus, donc je sais pas ce que je peux dire, quoi. C'est toujours beaucoup de courage, mais en même temps, moi-même, de mon côté, j'ai laissé un peu ça derrière maintenant, quoi.
Vous dédiez notamment ce livre à votre épouse et à votre fille. Vous dites que vous espérez ne pas les blesser avec vos mots, vos pensées. Votre épouse, elle a lu votre livre ?
Oui, elle a lu, oui.
Qu'est-ce qu'elle en a pensé ?
Alors, elle a trouvé très bien à ce qu'elle m'a dit, quoi.
Elle s'est retrouvée un peu aussi dans ce que vous écriviez ?
Oui, mais on a vécu un peu les mêmes choses. Si on fait abstraction des histoires de montagne, on n'était pas là. Donc, ce que j'ai raconté sur le petit, elle les a vécues aussi. Elle aurait peut-être pas mis les mêmes mots. Puis en même temps, c'est peut-être mieux qu'elle ne m'aille pas aider pour écrire ce bouquin, comme ça, ça donne qu'une seule version. Elle pourrait l'écrire différemment si elle voulait.
La montagne, qui a une place importante dans ce livre, vous parlez de vos nombreuses aventures, vous nous faites bien voyager à travers la Suisse et même dans d'autres pays. Est-ce que vous avez encore vous en avez fait beaucoup des sommets, est-ce que vous avez encore beaucoup de rêves en montagne, ou quel est celui que vous êtes, est-ce que vous en êtes fixé, hein?
J'en ai toujours deux, trois qui traînent, mais je sais pas, faut toujours regarder les conditions du moment. Et on dit toujours aussi être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Puis ça, c'est pas toujours facile. Mais disons que le projet que j'aurais maintenant aussi, on l'a peut-être ressenti dans le bouquin, c'est de ne pas rester là-haut définitivement.
Donc de redescendre un peu.
Ouais, toujours de redescendre, quoi, c'est ça.
Toujours de redescendre.
C'est quand même un lieu dangereux si on y réfléchit.